France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par cette première étape vers une transition du pouvoir aux États-Unis. Donald Trump donne son feu vert à l'administration américaine pour travailler avec les équipes de Joe Biden. L'entourage du futur président salue cette annonce. Elle intervient après la certification officielle de la victoire de Joe Biden dans le Michigan. C'était un état clé de la présidentielle. Donald Trump réaffirme toutefois sa volonté de continuer de son côté les recours juridiques pour contester sa défaite. Un premier pas donc pour Joe Biden vers la Maison Blanche. Joe Biden qui a dévoilé les premiers noms de sa future équipe. Il y a plusieurs premières dans l'histoire américaine. Une femme nommée au Trésor, Janet Yellen. Un hispanique à l'intérieur, Alejandro Mayorkas. Et puis d'anciens collaborateurs de Barack Obama. Notamment John Kerry qui sera émissaire pour le climat ou Anthony Blinken en tant que secrétaire d'État. L'évacuation de centaines de migrants en plein centre de Paris hier soir fait réagir. Des images choquantes, voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a demandé un rapport au préfet de police. Des centaines d'exilés s'étaient installés sur la place de la République hier soir dans des tentes, mais les forces de l'ordre les ont rapidement évacués. Plusieurs responsables associatifs dénoncent une intervention violente. Ces personnes errent dans la capitale depuis l'évacuation d'un important campement. C'était la semaine dernière au nord de Paris. En attendant l'allocution du président de la République ce soir à propos de la crise sanitaire liée au Covid-19, à propos aussi de premiers assouplissements du confinement, des milliers de commerçants et d'indépendants ont manifesté hier dans plusieurs villes. Ils réclament toujours une reprise rapide de leurs activités. Emmanuel Macron l'avait fixé comme un cap symbolique, le nombre de nouvelles contaminations qui est repassé sous la barre des 5000 personnes en 24 heures, chiffre de dimanche. Et puis notez que les syndicats de Danone dénonce la volonté de rassurer les actionnaires au détriment des salariés. Pour trouver 1 milliard d'euros d'économie, le groupe agroalimentaire compte supprimer jusqu'à 2000 emplois, dont 4 à 500 en France. Chez Total aussi, on envisagerait de supprimer des emplois, selon les syndicats, au moins 700 postes sur le territoire.
Alors que nous venons de commémorer les 50 ans de la mort du général de Gaulle, nous allons nous interroger cette semaine sur la manière dont les grandes figures historiques marquent toujours la vie politique d'aujourd'hui.
Culture Monde, Florian Delorme.
De Winston Churchill à Boris Johnson, où une certaine idée de l'indépendance britannique continue de peser, de Gamal Abdel Nasser à l'actuel président égyptien Al-Sisi, nous évoquerons également le castrisme qui, de Fidel à Raoul, conduit toujours la destinée de Cuba. Et puis enfin, nous nous pencherons sur l'incontournable Nelson Mandela.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Confiné avec Keith Jarrett pendant 4 jours, le rêve.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
4 émissions pour interroger l'esprit du jazz, engager une conversation intime avec le piano, réfléchir au travail que demande l'improvisation et enfin questionner ce que le jazz fait au temps.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Bruno David pour sa chronique Le Monde Vivant. Chronique qui se penche ce matin sur un animal mystérieux au regard qui tue.
En cette fin du XVIIe siècle, la peur serre le ventre de l'audacieux. Il hésite vraiment à regarder. Il y a de quoi, car il rend visite à Auguste Hermann Franck qui lui fait l'honneur de son cabinet de curiosité. Et dans ce cabinet, notre visiteur est face à un basilic, animal étrange, dont parlait déjà Pline l'Ancien en 77. Un squelette monstrueux atteste de l'existence du basilic. Même mort, il semble redoutable. La peur du visiteur n'est pas dénuée de raison, car le basilic a un regard vénéneux qui tue à distance. Sachez qu'il s'agit là de l'animal le plus vénéneux et le plus venimeux qui soit. Son odeur peut oxyre un oiseau en vol. Son contact tue sur le champ. Engendré par la fécondation d'un œuf de poule par un serpent, il a une tête de coq couronné, une queue de serpent terminée par un dard, plusieurs pattes, on ne sait pas combien, et des ailes. Véritablement démoniaque, ce fabuleux spécimen fascine tellement que notre visiteur le regarde quand même. Tout d'abord, ses deux orbites sont vides. Il y a peu de chances que son regard ait encore un effet. En dessous, la bouche ouverte est largement fendue, bordée de plusieurs rangées de dents. Au-dessus, le front se termine en pointe, telle une couronne qui rappelle aussi la mitre d'un évêque. La bête est couverte de grosses écailles sur diverses parties du corps. Dans un ouvrage de 1558, Conrad Gessner représente un basilic avec de grandes ailes, une longue queue et des mains en forme de pinces. L'existence du basilic était alors attestée dans nombre de cabinets de curiosités européens. Certains ont été préservés jusqu'à aujourd'hui, comme à la cathédrale de Salzbourg ou dans les musées d'histoire naturelle de Vérone, Vienne, Leiden, Londres ou Toulouse. Comment sont-ils interprétés à la lumière de la science ? Dès 1579, le médecin et botaniste italien Pierre-André Mathiol commence à douter. Si voir un basilic tue instantanément, comment ceux qui l'ont aperçu ont-ils pu en témoigner ? Auparavant, dès 1551, Pierre Belon avait dénoncé la fabrication de faux basilics naturalisés. Car il existe dans l'Europe des XVe et XVIe siècles un marché lucratif de chimères fabriquées de toutes pièces par des artisans adroits à partir de squelettes de raies. Plus exactement, à partir de la raie bouclée, Raja clavata. Un poisson au squelette cartilagineux qui, lorsqu'il sèche, se transforme. En le pliant, lorsqu'il n'est pas complètement sec, et en pratiquant quelques entailles bien placées, on peut lui donner des allures étranges. Il suffit ensuite de le sécher au soleil et de recouvrir le tout de vernis. Ainsi, la couronne du basilic est-elle le rostre de la raie, en quelque sorte son museau ? Les yeux sont ses narines, les pieds sont ses nageoires pelviennes, et les mains et ailes sont ses grandes nageoires pectorales. La queue et la bouche sont bien ceux de la raie. Les boucles, ou grosses écailles pointues, renforcent l'aspect démoniaque. Linné donna le nom de basilic à un lézard sud-américain, Basiliscus basiliscus, en raison de sa grande crête. La raie était devenue un lézard. Je savais bien que le basilic était diabolique.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Et aujourd'hui un Réveil culturel consacré à un grand peintre belge qui reste peu connu hors de son pays, voire même hors de sa ville natale, Ostende. Léon Spilart, maître du clair-obscur et des espaces vides, des errances nocturnes et des solitaires plongés dans leur mélancolie, comme chez son contemporain américain Edward Hopper, mais en plus brumeux encore. En attendant la réouverture du musée d'Orsay à Paris pour aller voir la grande expo Léon Spilart, Lumière et Solitude, on peut lire deux livres qui sortent à cette occasion et qu'on peut déjà commander et retirer en librairie. Deux textes personnels, littéraires et très documentés qui nous emmènent sur les traces du peintre Ostende, début du XXe siècle. Être-moi toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Spilart, c'est de Stéphane Lambert, est édité par Arléa. Et Léon Spilart, œuvre au noir d'Eva Bester, lui sort chez Autrement. Les deux auteurs sont nos invités à distance, cela va sans dire. Léon Spilart est né en 1881 à Ostende. Son père y tenait une parfumerie réputée. L'univers de la ville portuaire occupa une place centrale dans l'œuvre du peintre, tandis que ses lectures d'auteurs symbolistes et son attrait pour la philosophie nietzschienne ont nourri la teneur de son regard. Après un bref passage à l'Académie des Beaux-Arts de Bruges, Léon Spilart développa une esthétique empreinte d'angoisse. À partir de 1902, il illustre une série de livres pour l'éditeur bruxellois Edmond de Man, qui lui permet de nouer des liens avec des artistes et des écrivains renommés tels que Rodin et Verhaeren. Grâce à ce dernier, Spilart expose quelques dessins aux côtés de Picasso dans une galerie parisienne. Sa santé fragile l'oblige régulièrement à rentrer à Ostende auprès de sa famille. Le confinement auquel le contraignent certaines périodes de convalescence l'amène à travailler l'autoportrait et à explorer la vie silencieuse des objets et des lieux. La période de création qui fera la postérité de Spilart se concentre sur une dizaine d'années avant la Première Guerre mondiale. Son imaginaire y témoigne d'une exceptionnelle puissance poétique traversée par la sublimation de la noirceur. Bonjour Stéphane Lambert.
Bonjour.
Je viens de lire la première page de votre livre consacré à Léonce Pilart. C'est l'introduction, une introduction documentée. Et puis ensuite, dès le deuxième chapitre, vous glissez dans la peau du peintre, puis celle de son psychanalyste. Et ce n'est qu'ensuite qu'on vous retrouve sur les terres de Pilart. Après l'histoire romancée, il vous fallait connaître sa géographie, c'est ça ?
Je la connais un peu, puisque étant belge, c'est assez familier ce décor de la Flandre. Ce que je voulais surtout, c'était la peinture de Spilliard essaye effectivement de sortir de l'individualité pour rejoindre une forme de flou qui est presque psychanalytique et donc très commun. Et donc je voulais que nos voix avec un X se confondent un peu et donc que la sienne émerge de la contemplation que je fais de ses œuvres et qu'inversement, moi, je continue d'avancer à travers mon regard.
C'est bien d'avoir rappelé que vous êtes belge et que vous connaissez mieux que nous Spilart. Vous avez beaucoup donc traîné au Musée des Arts de la Mer, je suppose, devant l'incroyable collection d'œuvres de Spilart. Pour vous, il représente quoi, Stéphane Lambert, Spilart ? Quel artiste ? C'est plutôt le côté angoissant, le côté mélancolique qui l'emporte ?
Comme vous le disiez, enfin, dans la lecture du début de mon livre, il est connu quand même en Belgique de manière bien reconnue, bien installée dans notre imaginaire collectif. Et moi, je l'ai découvert forcément quand j'étais adolescent. Et quand on est adolescent, cet univers correspond vraiment à des états qu'on vit. Cet isolement, cette rencontre du monde extérieur, auquel il donne une forme, effectivement. À la fois, il saisit l'inquiétude qu'on peut ressentir face à ce monde extérieur, mais en même temps, il y a un réconfort de sortir de son isolement en voyant ses œuvres.
Alors, les critiques de son vivant lui prédestinaient la gloire et la postérité, mais aujourd'hui, on ne le connaît pas très bien, ce peintre. Pourquoi on a eu cette période où on a voulu l'oublier ?
C'est vrai, c'est pas vrai qu'on le connaît pas bien. En fait, on le connaît pas bien dans le sens, effectivement, son nom n'est pas très connu du grand public. Mais par contre, je pense que son imaginaire est quand même assez familier à beaucoup de gens. En tout cas, pour ceux qui lisent, par exemple, parce que ses œuvres ont souvent été utilisées sur les couvertures de livres. Si vous faites une petite recherche, vous allez voir que on a souvent utilisé par exemple cette fameuse toile le Vertige dont on dit qu'elle aurait influencé à Hitchcock pour Vertigo, ce personnage de Dandy qui se promène sur la digue de nuit a souvent été utilisé, ces autoportraits saisissants comme ça, on les a souvent vus également sur les couvertures de livres, donc c'est un imaginaire qui est quand même assez familier, mais effectivement, sa reconnaissance n'est pas celle de par exemple, Schiele ou Munch, pour prendre des peintres plus ou moins contemporains.
Et qui l'ont marqué.
Et qui l'ont marqué et qui ont des univers assez parallèles, en fait.
Se glisser dans la peau de Spilart, ça nécessite quoi ? Ça nécessite d'avoir vu tous les tableaux, toute son œuvre, ou d'avoir aussi toute la documentation autour de sa vie ?
Oui, c'est un peu, j'imagine, le même travail que pour les acteurs avec leur texte, c'est-à-dire que il faut l'apprendre, son texte, mais après il faut l'oublier pour faire en sorte qu'on arrive à un point zéro, comme si c'était le point de rencontre vierge avec l'œuvre. Et il faut arriver en fait à ce que l'œuvre nous pénètre de telle manière qu'elle parle à travers nous en fait. C'est ça de toute façon la force de l'art. C'est pas que ça reste des icônes extérieures, c'est qu'à un moment on porte les œuvres en nous, elles commencent à s'animer à travers nous, elles vivent à travers nos propres sensations, nos propres pensées, nos propres expériences. Elles se mêlent à nos propres expériences.
Thank you. Stéphane Lambert, vous précisez dans votre livre que Léon Szilard a été très marqué aussi par la littérature. Alors, il a rencontré des grands écrivains, hein, Stefan Zweig achetait ses œuvres par exemple. Mais comment la littérature peut-elle influencer un peintre ?
Ah bah c'est facile, c'est-à-dire qu'en fait, c'était comme vous l'avez dit, il avait une santé fragile, mais bon certainement un tempérament tourmenté, donc il a été très solitaire pendant. Il s'est marié qu'à 34 ans, hein, donc toutes ces années jusqu'à 34 ans, il a été un grand lecteur, donc confiné. Même ouais. si le terme aujourd'hui est assez négatif, mais et dans ce confinement, bah, il lisait pour trouver chez les autres un écho de ce qu'il ressentait intérieurement.
Et vous-même, vous devinez la bibliothèque idéale de Szilard à partir de ses œuvres ?
Oh oui, c'est pas difficile de concevoir. En fait, pas tellement sa bibliothèque, parce que ça, effectivement, c'est aussi le fruit des fois des circonstances, mais d'imaginer les écrivains qui peuvent correspondre à son univers. Vous savez, ce qui me trouble dans sa peinture, c'est qu'elle est aussi représentative de toute cette époque. Du début du siècle où la psychanalyse prenait son essor, où des écrivains comme Kafka et Pessoa écrivaient leur journal et vivaient exactement les mêmes tourments intérieurs. Donc voilà, c'est toute cette famille de créateurs qui explore ces ténèbres intérieures et qui essaye aussi d'atteindre leur moi, mais pas dans ce qu'il a d'anecdotique, dans ce qu'il a de plus essentiel.
Vous dites qu'il a fini par avoir la reconnaissance et une vie familiale plutôt heureuse, mais que l'essentiel de l'œuvre de Szilard, c'est ce qu'il a fait avant la reconnaissance, avant son mariage, quand il était dans le dénuement.
Bah oui, parce que je pense qu'effectivement, bon, il y a plusieurs choses. Certainement que son mariage et sa vie conjugale et sa vie paternelle a calmé ses angoisses, ses inquiétudes et elles étaient grandement à l'origine de sa force créatrice. Et puis je pense qu'aussi quand on crée, quand on n'a pas de public, on est dans une mise à nu total, en fait. On n'est pas dans un souci du regard extérieur, donc on va encore plus loin dans ce travail de scalpel pour atteindre ce qu'on croit chercher, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on cherche, hein, à travers la création, mais en tout cas on prend moins de pincettes pour y aller.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Être moi, toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Szilard, c'est le titre de votre ouvrage, Stéphane Lambert. Pourquoi être moi, toujours plus fort ? Eh bien, vous l'expliquez, vous dites que le peintre cherchait ce qui se cachait derrière ce qui apparaît, c'est-à-dire passer de l'autre côté de l'image, écouter le murmure de la mort et se réveiller juste avant de disparaître pour saisir la proie que nous sommes.
Oui, alors ça c'est une... De toute façon, la phrase c'est de lui, hein. C'est une phrase qu'il a dite... Je crois que c'était dans une interview, on lui a demandé quel était son plus grand désir, et c'est ça qu'il a répondu, être moi toujours plus fort. Et effectivement, je pense que on voit bien que bon, son œuvre, même si elle s'inspire soit de l'autoportrait, soit effectivement des paysages de Stand, on n'est pas dans le naturalisme du tout, on est dans la transfiguration, dans la vision, et Moi, je fais toujours une différence entre le réel et la réalité. Et en fait, le réel, c'est ça comprend la réalité, mais ça comprend également toute la partie de qui n'est pas visible, qui n'est pas perceptible, alors que la réalité n'est que ce qui est perceptible. Et les grands artistes arrivent à faire émerger dans leur vision tout cet invisible. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler également la poésie. C'est ce qui arrive à donner forme à ce qu'on sait présent, mais qui n'est pas visible. Et c'est pas spécialement des choses surnaturelles, hein. Ça peut être simplement les sensations, les émotions, tout ce qui ne participe pas de la vision extérieure, l'artiste le révèle dans la forme artistique. Mais par exemple, il a fait beaucoup de scènes avec des objets sans action, et il arrive à travers son regard à faire parler ces objets. Alors je pense à ce fameux cette coupe bleue, qui pour moi est absolument un chef-d'œuvre. S'il fallait d'ailleurs retenir qu'une œuvre de toute l'œuvre de Spillart, on pourrait retenir que la coupe bleue, parce que c'est vraiment la quintessence de l'art, c'est-à-dire à partir d'un seul élément comme ça, inerte, sans vie, qui est une coupe bleue posée sur, en plus, il n'y a pas d'autres fioritures dans le décor, je pense le fond est assez uni. Il arrive à faire vibrer cette coupe de tout l'invisible qu'on peut projeter sur elle, en fait. Et c'est la magie de l'art, en fait, la magie dans le sens le plus fort et le plus ensorcelant.
Merci beaucoup, Stéphane Lambert.
Ben, je vous en prie, merci à vous.
Et dans un instant, on retrouve Eva Bester, elle-même sort un livre autour de Spillart.
À Ostende, j'aime Gibraltar, ces rochers qui s'ingénient à me faire du plat. À Ostende, je tire Ostende, je gagne des otaries. La mer se retire, cache ses rouleaux à l'ombre des digues, elle et moi on s'ennuie. Nos souvenirs font des îles flottantes. À Ostende, j'ai la hantise de l'écharpe qui s'effiloche à ton cou. À Ostende, j'aime Épinal, ses ondes et lacrymales à l'arrivée du ferry. Un soupçon de fadeur, un rien de tragédie, et je pleure mon collier, ma colère. Flottez hippocampe, droit comme des i, laissez-vous porter par l'extrême obligeance. Faites fi de la géographie, des petits ensembles, des grands amphis. À Ostende, j'aime Gibraltar, à Ostende, j'appréhende les forces en présence. Je paye en yens des offrandes carabinées à des païennes indifférentes. À mes palabres, à Ostende, tout mon havre. À Oslo, j'aime Agadir, son brouhaha. À Java, j'aime la Villette, à l'Alma, je soupire. En Ukraine, j'aime le fado.
Ces paysages sont des asiles, ces portraits, les effigies de nos âmes sombres. Avec ces natures mortes, il transcende le réel et rend le banal fantastique. C'est un alchimiste. De la boue et de la sombreur, il fait du sublime. Spillart donne du panache au spleen.
Eva Bester, je suis en train de lire un extrait de votre livre que vous consacrez au peintre qui sort chez Autrement. Vous aussi, vous êtes allée sur les traces de Spilart, au stand
Mais
Bruxelles.
Oui.
Alors, je ne sais pas, franchement, Eva Bester, bonjour d'abord. Je ne sais pas si Spilart est un bon remède à la mélancolie, pour reprendre le titre de votre émission tous les dimanches matins sur France Inter, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qui vous inspire. Quelle œuvre de Léon Spilart vous marque le plus, Eva Bester?
Pour moi, ce qui est emblématique, bon, je pense que son millésime, c'est l'année 1908, et c'est l'année où il réalise la plupart de ses autoportraits, où il a l'air d'une créature sortie d'un film de Tim Burton, avec un côté aussi un peu David Lynch. Et l'autoportrait vraiment qui me frappe, c'est l'autoportrait au miroir, où il se tient devant un miroir, et on dirait qu'il s'est échappé d'un cauchemar expressionniste allemand. En fait, il a un visage blafard, glauque même, mais glauque au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la couleur de la mer, bleu-vert, et il est dans un cri d'effroi silencieux, on dirait un reptile paralysé d'épouvante. Et puis derrière lui, il y a le miroir qui se dresse, vous savez, comme dans les films d'horreur. Tout film d'horreur comportant un miroir est forcément effrayant. Et il y a le miroir qui l'épie. C'est comme s'il revenait d'un voyage chez les morts ou de l'autre côté du miroir et qu'il avait eu accès à des choses justement qui sont tout le temps en train de grouiller derrière nous, mais qu'on ne soupçonne pas. Et c'est absolument terrifiant. Et quand je vois ce tableau, en fait, j'ai l'impression que c'est nous, les vivants, devant l'hostilité du monde. Quand on ressent de l'effroi, c'est cette tête-là qu'on a, mais à l'intérieur. J'imagine que notre âme a cette tête-là, exactement.
Ça a servi à quelque chose, ce voyage sur les traces de Spilart, Eva Bester?
Bah, ça a servi pour la documentation, mais si vous voulez me parler de métaphysique, je suis ouverte.
Non, vous avez retrouvé des ambiances un siècle après dans Ostend,
oui.
Le Ostend des tableaux de Spilart?
Parfaitement, parce qu'en fait, il y a la digue, la mer, le front de mer et les galeries royales, ces arcades qu'il a représentées si souvent, en fait, sont toujours là. Donc, c'est assez impressionnant quand on se balade là-bas, on voit Spilart, on voit la beauté de la ville, et en même temps, cette ville a été défigurée aussi par des blocs d'immeubles contemporains très laids, mais il reste des villas belle époque et quelques vestiges architecturaux qui font penser à Spilart.
Alors, vous avez parlé de cet autoportrait. Pour moi, c'était vraiment le visage du peintre complètement métamorphosé par l'effroi que lui inspirait le reflet de ses propres traits. Il était comment physiquement, Léon Spilart?
Il avait un visage assez impressionnant. Il avait un grand front, il avait les veines saillantes, il avait des grands yeux un peu exorbités. Il y a un ami à lui qui comparait ses yeux à des suçoirs qui aspirent le sang en fait de tout ce qui l'entoure, les objets, le réel, son environnement. Et il est une créature un peu qu'on peut trouver chez Hoffman ou Edgar Poe. Vraiment, il habite le monde très douloureusement au début de sa vie. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup de tendresse pour lui. J'aurais aimé l'avoir comme ami. Il était très rigolo aussi, parce qu'on parle toujours de Spilart, de sa noirceur, de son tempérament inquiet, mais c'était aussi quelqu'un de très facétieux qui se décrivait comme ayant pour trait principal de caractère la blague.
Léon Spilart, œuvre noire d'Eva Bester, sort chez Autrement, et Être moi, toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Spilart de Stéphane Lambert, lui, est édité par Arléa. Merci Eva Bester d'avoir
Merci
participé
beaucoup.
Au Réveil culturel.
Merci pour votre invitation.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Espérant que le musée d'Orsay rouvre bientôt pour cette grande exposition consacrée à Spilart. Passez une bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et si nous parlions d'amour?
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture, Xavier Mauduit.
Nous allons parler d'amour avec Aphrodite et Rose Apollon, pour de l'amour antique, avec les troubadours et les trouvères pour les chants de l'amour courtois, des liaisons dangereuses de Marie-Antoinette au romantisme, comment se construit le sentiment amoureux entre pureté et convention.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. Entrons dans l'histoire. Inédit sur France Culture, Le Roi de Fer, premier livre des Rois Maudits de Maurice Druon. Pour la première fois, un programme de lecture intégrale réalisé et diffusé en direct chaque soir dans le feuilleton. Les drames politiques, passionnels, qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons pendant l'époque troublée des derniers Capétiens au XIVe siècle. Première partie du Roi de Fer, La Malédiction, lue par Lionel Astier. En direct, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h pour desserrer un peu l'étau du confinement. Un rendez-vous sans grand suspense, mais symbolique et attendu pour fixer le cap de la crise sanitaire. Là-dessus, les différents camps politiques ne sont pas d'accord, vous l'entendrez. Allègement de contraintes aussi en Grande-Bretagne face à la crise du Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson s'exprimait hier. Dans ce journal encore, nous vous dévoilerons les bons élèves européens de la rénovation énergétique des bâtiments. La France voudrait s'en inspirer. Et puis, zoom sur le Conseil national des solutions, une instance que voudraient créer des maires pour surveiller la répartition du milliard d'euros dédié aux quartiers défavorisés dans le pays. Mais le gouvernement refuse. Il promet de la clarté, de la cohérence et un cap. Emmanuel Macron prendra ce soir la parole pour une allocution télévisée prévue à 20h. Encore une fois, le président de la République va devoir tenter de conjuguer impératifs sanitaires et économiques. Pour Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains du 6e arrondissement de Paris et conseiller régional d'Île-de-France, il est grand temps de changer de stratégie au sommet de l'État.
Le triptyque testé, tracé, isolé ne fonctionne pas. On teste maintenant beaucoup, je dirais même qu'on teste peut-être un peu n'importe comment, mais on trace mal et on isole pas du tout. Donc la crainte, bien évidemment, d'un certain nombre d'élus locaux, c'est que si on utilise les mêmes règles, si on raisonne en fonction des mêmes concepts, si on applique la même stratégie, on risque d'avoir un troisième reconfinement. Après, le président sera peut-être prêt pour un Covid-20 ou un Covid-21, mais là, dans la gestion du Covid-19, je dirais que c'est quand même une gestion abracadabrantesque.
Alors, dans la majorité présidentielle, on veut croire qu'il n'est pas encore trop tard pour rectifier le tir. À l'image d'Olivier Becht, le député du Haut-Rhin, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée, partenaire de la majorité.
Le président de la République doit montrer que nous avons désormais une stratégie pour éviter cette tragédie qui est le confinement, déconfinement, reconfinement. Cette politique de stop and go, elle n'est pas tenable ni psychologiquement, ni économiquement, ni financièrement pour notre nation. Et donc, si on veut pouvoir restaurer de la confiance, il faut que le président de la République énonce de manière claire une méthodologie qui permette de faire en sorte que l'année prochaine, 2021, ne ressemble pas à 2020.
Des propos recueillis pour France Culture par Rosalie Lafarge. Je vous rappelle l'idée générale de l'allocution prévue ce soir, un allègement des contraintes, a priori en trois phases, d'ici la semaine prochaine d'abord, puis juste avant Noël et enfin en janvier prochain. Alors que le nombre de contaminations baisse encore ces dernières 24 heures, tout comme le nombre d'hospitalisations dans le pays. L'espoir est le même en Grande-Bretagne, où après 5 semaines de confinement, le Premier ministre britannique a pris la parole hier, Maxence Peigné.
L'issue est en vue, s'est félicité Boris Johnson en annonçant la fin du confinement pour le 2 décembre lors d'une allocution au Parlement britannique. Après un mois de restrictions, les Anglais vont donc retrouver un peu de liberté, même si le Premier ministre a précisé que ce n'était pas un retour à la normale. Comme au début de l'automne, le pays va adopter des règles régionales différenciées, mais elles seront plus strictes.
Nos trois niveaux d'alerte doivent être renforcés. Au premier niveau, le télétravail sera appliqué quand il est possible. Au second niveau, l'alcool dans les bars ne pourra être servi qu'avec un repas. Au troisième niveau, les lieux de divertissement seront fermés. Les hôtels, les bars et les restaurants devront fermer, sauf s'ils vendent à emporter.
La nouvelle carte des restrictions doit être publiée jeudi. L'autre sujet sur lequel Boris Johnson était attendu, c'est bien sûr les fêtes de fin d'année. Elles seront possibles, mais différentes.
Ce virus ne fera pas de trêve pour Noël. Il ne sait pas ce que c'est Noël. Les familles devront donc être prudentes face aux risques que représentent les visites aux personnes âgées.
Les règles qui s'appliqueront sur cette période sont encore à l'étude et font l'objet de concertations avec l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui ont leur propre politique de santé.
Maxence peignait depuis Londres. J'ajoute que la Suède aussi multiplie les mesures de son côté pour faire face à cette deuxième vague. Pas de déconfinement en vue, puisqu'il n'y a pas de confinement en Suède. Mais à partir d'aujourd'hui, tous les événements publics destinés au public donc et nécessitant une autorisation de police ont une jauge qui passe à 8 personnes maximum. C'est une première dans le pays. Donald Trump enclenche la transition politique vers Joe Biden. Aux États-Unis, le président sortant donne son accord pour que l'administration américaine commence à travailler avec les équipes du président élu. Nous y reviendrons plus longuement avec notre correspondant dans le journal de 7h sur France Culture. Nous reviendrons aussi sur la composition de l'équipe de Joe Biden, composition déjà annoncée hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'images choquantes et demande un rapport au préfet de police. Images choquantes après l'évacuation hier soir de plusieurs centaines de migrants sur la place de la République à Paris. Ces exilés errent dans la capitale depuis la semaine dernière, depuis l'évacuation d'un important campement au pied du Stade de France. Ils sont soutenus par des associations et des élus qui étaient présents place de la République hier à Paris. Le terme d'écocide va faire son apparition dans le droit français. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili et son collègue à la justice, Éric Dupond-Moretti, l'avaient annoncé ce week-end et ils ont précisé cette mesure hier aux membres de la Convention citoyenne pour le climat. Eux demandaient la création d'un crime d'écocide et non pas d'un délit, comme ce sera le cas, d'où la colère de Yolande Boin, membre de la Convention.
Aujourd'hui, avec ce que le gouvernement nous propose, ça devient franco-français. C'est-à-dire que, bah oui, on va faire pénaliser peut-être ceux qui sont dans les eaux françaises, ceux qui sont sur le territoire français, peut-être un peu dans les DOM quand même, hein. Mais tout ce que les grandes multinationales françaises font, détruisent, et je trouvais assez intéressant aussi de rapprocher l'écocide de l'ethnocide. C'est-à-dire que les écocides produisent des ethnocides. Je pense à des ethnies qui disparaissent petit à petit à cause des gros problèmes environnementaux, des populations qu'on déplace, que ce soit en Amérique latine, en Asie. Donc en fait, là, on perd toute cette notion-là. Une fois de plus, ils ont restreint, ils ont dénaturé le propos sur lequel on avait fait une proposition.
Des propos recueillis par Véronique Rebérotte hier soir. Autre sujet lié à l'environnement et qui préoccupe le gouvernement, le chauffage des bâtiments, qui représente 18% des émissions de gaz à effet de serre en France. L'exécutif a donc demandé au Haut Conseil pour le climat, qui dépend de Matignon, un panorama des solutions déjà testées dans d'autres pays européens, Célia Kiray.
En haut du podium, la Suède est le seul pays européen qui a réussi à supprimer totalement les émissions de CO2 issues de ses bâtiments et de ses logements. Ce pays du Nord s'efforce depuis des années de trouver des systèmes de chauffage performants et non polluants en termes de gaz à effet de serre. La France pourrait donc s'en inspirer, au moins en partie, selon ce rapport. Corinne Lequeré est la présidente du Haut Conseil pour le climat.
Ils ont fait un effort sur plusieurs dizaines d'années. Ils ont commencé tôt avec des performances, des normes exigeantes. Ils ont investi dans les réseaux de chaleur, ils ont investi plus récemment dans les pompes à chaleur et le chauffage électrique. Tout ça accompagné d'une taxe carbone. Et du coup, en faisant cet effort et cet ajustement décennie après décennie, ils sont pratiquement entièrement décarbonés là en ce moment.
Autre exemple, l'Allemagne, si elle n'est pas aussi performante que la Suède, elle a réussi à mettre en place un système où les aides financières ne sont versées que si des travaux ont été réalisés. Et ça marche, peut-être une piste à suivre également. En tout cas, la France est en retard. Aujourd'hui, moins de 70 000 rénovations sont réalisées chaque année. Cela concerne seulement 0,2% des bâtiments. Il faudrait multiplier le nombre de chantiers par 10 chaque année d'ici 2030. Plus de 6 millions de foyers vivent toujours dans des passoires énergétiques.
1 milliard d'euros pour les quartiers défavorisés, cela représente 1% du plan de relance. Et ce milliard d'euros sera sanctuarisé, voilà ce qu'a promis hier Matignon. Une dizaine de maires s'inquiètent toutefois de la mise en œuvre et du suivi de ces aides. Ils ont réclamé la mise en place d'un Conseil national des solutions, mais ils peinent à se faire entendre, Thomas Giraudot.
La ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay, est claire. Pas besoin pour l'instant d'un Conseil national des solutions, puisqu'il existe déjà un Conseil national des villes, une instance qui rassemble élus locaux, associations, entreprises et habitants des quartiers défavorisés. Hélène Geoffroy, maire PS de Vaux-en-Velin et ex-secrétaire d'État chargée de la politique de la ville.
Il a fait des propositions et dont certaines ont pu être prises par le gouvernement, mais il n'est pas en train de suivre commune par commune les 1% du plan de relance pour savoir si les cités éducatives de chaque commune ont bien été financées, les associations de chaque commune, en tout cas dans le format tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas le faire.
Le Conseil national des solutions veut être plus concret, plus en phase avec le terrain. Il est pourtant composé du même type d'acteurs que le Conseil national des villes. Alors quelle différence ? Frédéric Le Turc est le maire centriste d'Arras.
Il y a des projets qui émergent des acteurs locaux qui ne sont pas suffisamment hissés dans un espace de dialogue à partir duquel en fait on pourrait puiser de bonnes idées, à partir duquel on pourrait échanger sur en fait les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Et ce débat-là, c'est pas au Conseil national des villes qu'on le trouve.
Créer donc une institution complémentaire, moins techno, pas indispensable aujourd'hui, donc selon le ministère concerné, qui dit impulser une nouvelle dynamique au sein du Conseil national des villes, en associant davantage encore les élus locaux.
Un temps sec mais nuageux, excepté sur le sud-est, toujours ensoleillé. Voilà la météo de ce mardi. Ce matin, il fait 3 degrés à Strasbourg, 8 à Paris et 15 degrés à Nice. À 6h40, nous accueillons maintenant Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, Jacques, vous notez que les partenaires sociaux se sont quittés hier soir sans avoir finalisé l'accord sur le télétravail.
Eh oui, les discussions doivent reprendre aujourd'hui, mais patronat et syndicats avaient esquissé un rapprochement. Tout va être dans l'art de la plume, souligne Leïla de Commarmont dans Les Échos, pour concilier le ni prescriptif ni normatif patronal et l'exigence syndicale de fixer un cadre dans un accord national interprofessionnel. Certains sujets mis en discussion sont particulièrement sensibles, précise-t-elle, autant de points sur lesquels les syndicats attendent des évolutions. Il s'agit en particulier du renforcement de la protection du volontariat des salariés, de l'enjeu de la préservation du collectif de travail et de la réversibilité du télétravail. Le Monde avec l'AFP ajoute que le patronat ne propose plus un assouplissement de la législation sur les accidents du travail, actuellement imputables à l'employeur, ce qui était une ligne rouge pour toutes les organisations syndicales. La présomption d'imputabilité s'applique également en cas de télétravail, souligne désormais le document. Bertrand Bissuel et Raphaël Besse-Desmoulières évoquent dans Le Monde une négociation moins tendue, mais toujours incertaine. La CFDT a estimé que le texte présenté par les organisations d'employeurs contenait quelques avancées, notamment sur le double volontariat, celui du salarié et celui du chef d'entreprise, pour instaurer l'activité à distance, ou encore sur la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité d'organiser le retour du travailleur dans les locaux de sa société, sur la réversibilité qui permet à un salarié de mettre fin au télétravail. Il n'y a pas de changement dans la formulation, alors que les syndicats souhaitent qu'elle précise que le salarié puisse revenir sur le même poste. Temps, rythme et intensité du travail, ces questions se posent à nouveau à propos du télétravail, mais elles ont une longue histoire dans une enquête très documentée parue à La Dispute sous le titre « Les rythmes du labeur ». Corinne Mette et Didier Terrier la retracent du 14e au 19e siècle en Europe occidentale, et il apparaît que la préoccupation de la durée du temps de travail partagée par les patrons et les employés pour des raisons diamétralement opposées est bien antérieure à la révolution industrielle. Les auteurs citent notamment le mémoire des propriétaires de vignes d'Auxerre qui accusent en 1493 leurs employés d'appetisser-leur en repartant chez eux à l'heure de nonne vers 3h de l'après-midi et non pas à vêpres basses vers 8h du soir, à quoi répondent les intéressés devant le Parlement de Paris que bien qu'ils soient pauvres gens, ils sont toutefois des humains et qu'on ne doit pas exiger d'eux telle peine ou tel travail comme l'en ferait d'un bœuf ou d'un cheval. Dès le XIVe siècle, le temps de travail est l'objet de négociations, si ce n'est de conflits. De nombreux historiens font valoir la différence entre le travail à la tâche, indifférent à la cadence de l'horloge, et le travail mesuré par le temps, qui serait à la fois plus contraignant, aliénant et lié à la modernité. Mais les deux ont coexisté pendant des siècles, et le travail à la tâche n'échappait pas non plus à la volonté de ne pas gaspiller le temps et d'accroître l'efficacité. Le machinisme, contrairement à ce que déclaraient ses partisans, n'a pas rendu le travail moins fatigant, car il n'a fait qu'alourdir la contrainte temporelle. À l'ère industrielle, l'utilisation massive de la chimie a accentué la pénibilité, a aggravé les risques sanitaires. Et au tournant du XXe siècle, les revendications sur la durée du temps de travail s'appuient notamment sur l'idée que la dernière heure n'est pas rentable et que la diminution des durées du labeur n'a qu'une incidence très limitée sur le niveau de production journalier. Ce sont alors de nouvelles formes d'intensification du travail qui s'imposent avec le taylorisme et son économie de gestes, de temps mesuré, de productivité, de salaire au rendement. Aujourd'hui, la flexibilité instaurée au nom de la politique des flux tendus fragilise le travail en l'émiettant. L'extension du télétravail pourrait aggraver cette tendance en le répandant dans la sphère privée. C'est pourquoi l'une des exigences syndicales concerne le droit à la déconnexion. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, en télétravail.
Oui.
Vous nous manquez aujourd'hui, en studio.
Voilà, vous revenez, Julie, sur les élections au Burkina Faso et le défi sécuritaire qu'elle représente.
Oui, la commission électorale va reprendre ce matin le décompte des bulletins, des scrutins présidentiels et législatifs. À peine a-t-elle commencé hier que l'opposition au président sortant, Roch-Marc Christian Kabore, l'accusait déjà de fraude. Les élections se sont tenues dimanche dans des conditions relativement chaotiques, il faut dire, des dizaines de milliers de Burkinabés n'ayant pas pu voter dans les zones menacés par les groupes djihadistes. Ce sera l'un des grands défis du prochain président, reprendre ces territoires aux mains de ces groupes terroristes qui ont fait en 5 ans 1600 morts et obligé 1 million de personnes à quitter leur village. Il faudra aussi redéployer l'État partout dans le pays, les services de police entre autres, que le pouvoir a en quelque sorte délégué aux citoyens volontaires. Bonjour Romane Dacunia Dupuis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante à Sciences Po, au CERI, le Centre de Recherche sur les Relations Internationales. Alors, puisque nous n'avons pas encore le résultat des élections de dimanche, prenons le parti de parler des communes où l'on n'a pas voté au Burkina Faso. La Commission électorale nationale indépendante avait exclu du vote les zones directement menacées par les groupes armés pour éviter aux habitants de prendre trop de risques. Il y a aussi les bureaux qui avaient prévu d'ouvrir mais qui n'ont pas pu. Est-ce qu'aussi on sait aujourd'hui combien de communes sont concernées et surtout combien de citoyens ont été privés de vote dimanche ?
Alors, les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir se situent principalement au nord et à l'est du pays. Ce qui représente en fait un peu moins de 18% du territoire burkinabé. Et il y aurait entre 300 000 et 350 000 personnes qui n'auraient pas pu se rendre au vote, sans compter les nombreux déplacés internes qui sont à peu près plus d'un million.
Il y a un million de déplacés au Burkina Faso. Ils sont où, principalement dans des villes du nord ?
Alors, ils sont dans des grandes villes comme Kaya, comme Djibo, et principalement au centre nord et au centre du pays. Et donc principalement dans les grandes métropoles.
Alors pourquoi n'ont-ils pas de carte d'électeur ? En tout cas, pourquoi n'ont-ils pas pu voter puisqu'ils sont citoyens burkinabés ?
Alors il y a plusieurs facteurs, mais je crois que l'un des principaux, c'est la question des papiers. La plupart sont partis très rapidement de chez eux, ont fui les violences et donc soit n'ont pas pris leurs papiers d'identité avec eux, soit les ont perdus. Et donc en fait, il a été très difficile pour eux d'obtenir par exemple des duplicata de leur carte d'identité auprès de leur administration locale, soit parce que les bâtiments en fait administratifs ont été détruits, soit parce que les fonctionnaires ont fui eux aussi les violences. Et donc il y a une grande difficulté en fait dans la gestion des papiers d'identité. Et l'État n'a pas mis en place de dispositif global pour permettre à tous ces déplacés internes de pouvoir voter.
Les élections de dimanche étaient à la fois présidentielles mais aussi législatives. Ça va quand même poser question de la légitimité des futurs élus sur ces territoires où une majorité écrasante d'électeurs n'aura pas pu voter.
Alors en effet, alors déjà quand même il faut préciser que les résultats seront reconnus comme étant légaux puisque l'Assemblée a voté une loi qui reconnaît la validité des scrutins malgré, enfin en tout cas en dépit de l'absence des votes de nombreux électeurs. Et en effet, la question de la légitimité risque de se poser, même si en fait on est sur des territoires où déjà
l'autorité étatique et sa légitimité en fait à administrer ces territoires est largement remise en question. Donc je pense que ça va plutôt s'inscrire et poursuivre ces débats-là sur donc la question de la légitimité de l'autorité politique étatique.
Donc ça veut dire que la question n'est pas seulement sécuritaire, il est aussi question de la faillite de l'État à organiser des élections sur ces territoires-là.
Alors, plutôt que de faillite de l'État, alors, il est vrai que c'est une question qui est sécuritaire et qui témoigne en quelque sorte de l'incapacité de l'État burkinabé de pouvoir encadrer et sécuriser correctement ces élections. Mais en fait, plutôt qu'une faillite de l'État, je pense qu'il faut aussi remettre en contexte cette crise sécuritaire qui, en fait, est en partie le résultat de très longues années sans politique publique très forte et massive dans les zones de l'Est et du Nord, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des logements, des infrastructures routières notamment, et donc aujourd'hui qui se mue en une crise sécuritaire. Donc plutôt qu'une faillite de l'État, on peut réfléchir en termes de décisions qui ont été prises ou non en termes d'investissement public par les différents gouvernements et qui ont aujourd'hui des conséquences malheureusement sécuritaires.
Donc historiquement, le nord et l'est du pays sont moins connectés au pouvoir central, il y a moins de services publics. Les terroristes, est-ce qu'ils visent de plus en plus les représentants de l'État, les préfets notamment? Est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau ou les djihadistes ont toujours, en tout cas c'est quand même sur une échelle plus récente que chez le voisin malien par exemple, ça fait 5 ans que les djihadistes sont sur le territoire burkinabé, mais est-ce qu'ils ont toujours misé sur une terreur ciblée?
Alors, en effet, assez rapidement, lorsqu'ils ont commencé à attaquer, il y a plusieurs choses. Il y a des attaques qui ont lieu déjà en représailles, suite à des missions des différentes armées qui luttent contre le terrorisme. Il y a aussi des attaques qui ont lieu dans des lieux publics, comme des marchés par exemple, et qui là finalement intimident la population et donc créent un effet de peur en fait dans les territoires. Et surtout, elles visent donc, comme vous l'avez dit, particulièrement les agents de l'État, que ce soit à la fois l'armée, la police, la gendarmerie, les élus locaux, les préfets, mais aussi et surtout, et on en parle peut-être un petit peu moins, mais les enseignants et les enseignants qui ont été considérablement attaqués et dont les écoles ont fermé très tôt dans le nord du pays notamment.
Dans ces centres humanitaires qui recueillent des déplacés au Burkina Faso, des témoignages disent que les djihadistes arrivent dans un village, en tout cas c'était le cas juste avant les élections, disent vous avez 72 heures pour partir et puis quand ils reviennent 72 heures plus tard, ils exécutent celles et ceux qui sont toujours là. Numériquement, quelle organisation aujourd'hui au Burkina Faso est la plus nombreuse des formations djihadistes connectées au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc affiliées à Al-Qaïda ou de l'État islamique?
Alors, je pourrais pas répondre précisément là-dessus, surtout que en fait il est difficile sans être sur le terrain de le savoir, et surtout les frontières entre ces groupes sont difficiles à saisir dans la mesure où ils s'affrontent aussi entre eux et ils créent aussi parfois des alliances. Donc je pourrais pas répondre précisément sur cette question, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des groupes qui mutent très rapidement et dont les dynamiques, les alliances locales en tout cas, sont sans cesse modifiées.
On sait qu'au Mali voisin, les autorités ont pris le parti de négocier avec les djihadistes liés en tout cas à Al-Qaïda. On sait moins ce qu'il en est aujourd'hui au Burkina Faso. À l'époque de Blaise Compaoré, déchu en 2014 en tout cas, c'était le parti pris de dire il faut dialoguer et ça a été un des enjeux de la campagne.
Oui, en effet, ça a été un des enjeux de la campagne et la nécessité de collaborer ou en tout cas de mettre en place des liens de communication avec ces groupes-là a été évoquée. Après, il est difficile de savoir pour l'instant comment ces discussions vont être menées et surtout quelles conséquences cela peut avoir ou cela va avoir. Concrètement, dans les mois à venir.
Et vous, Romane Cognat-Dupuis, qui avez particulièrement travaillé sur les groupes villageois d'autodéfense, et notamment celle des Kogluéogo, à majorité Mossi, donc l'ethnie majoritaire associée au plateau central notamment, est-ce que vous savez si ces groupes villageois d'autodéfense ont joué un rôle dans la sécurisation des élections dimanche?
Alors, la position officielle de l'État burkinabé et du gouvernement a été de dire qu'ils n'ont pas été intégrés officiellement au dispositif de sécurisation des élections. Ce sont uniquement donc les forces de défense et de sécurité qui avaient en charge l'organisation, enfin en tout cas le suivi sécuritaire de ces élections. En revanche, il est tout à fait probable que, d'un point de vue privé, on va dire, certains élus ou certains candidats, certains partis aient pu faire appel à leurs services, soit pour des raisons affinitaires ou politiques, soit tout simplement pour des raisons commerciales, dans la mesure où ces groupes vendent aussi en quelque sorte des prestations de sécurité privée. Et donc, à défaut de faire partie d'un dispositif national public de sécurisation, ils ont pu en fait faire partie d'un dispositif privé beaucoup plus localisé.
Parce qu'on vous avait, on vous avait invité l'année dernière dans les enjeux internationaux pour parler de ces milices Koglou et Ogo et plus généralement des groupes civils d'autodéfense. Et il se trouve que depuis cet entretien, ces groupes ont fait l'objet, disons, d'une régulation par les autorités burkinabées. Ils ont été intégrés aux structures de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ils sont recrutés, formés, armés par qui?
Alors, en janvier 2020, en effet, l'Assemblée nationale a voté donc la création des VDP, donc des volontaires pour la défense de la patrie. Alors, ça n'a pas été créé exclusivement pour les Koglougo. L'idée était d'acter, en tout cas, de légaliser la participation des citoyens à la lutte antiterroriste. En effet, certains Koglougo, mais pas tous, ont rejoint ce programme. Et c'est en fait l'État, notamment les forces de défense et de sécurité, qui forment ces citoyens pendant 2 semaines. A donc des missions d'appui sur le terrain, donc soit des missions de renseignement, soit des missions de patrouille. Et donc l'idée est d'accompagner les militaires sur le terrain et de faire tout un travail d'information, puisqu'il y a des zones où les militaires ne peuvent pas accéder. Et donc finalement, ces volontaires de défense pour la défense de la patrie pourraient, eux, faire un travail au préalable de repérage et d'information.
Et en deux mots, est-ce qu'on sait s'ils seront pérennisés ou pas? Parce que l'un des enjeux de cette élection, c'est justement la question sécuritaire.
Alors en tout cas, il est difficile de dire si ce sera pérennisé ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, cela reste d'actualité. Merci. Même si, comme on le sait, il y a également beaucoup d'exactions.
Merci. Oui, des débordements régulièrement dénoncés par des organisations. Merci beaucoup en tout cas, Romane Dacunha-Dupuis, d'avoir été avec nous ce matin, doctorante à Sciences Po, au CERI.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le goût du beau et le souci du vrai. Ainsi, Emmanuel Macron a-t-il rendu hommage le 20 novembre à la mémoire de Daniel Cordier, compagnon de la libération décédé à l'âge de 100 ans.
Quand nous avons vu l'Angleterre, c'était très joli, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que ça ressemblait aux côtes de France, c'était très gai, l'été 40 était superbe partout.
Parti à 19 ans rejoindre les forces françaises libres à Londres, il devient le secrétaire de Jean Moulin, puis son biographe. À voix nue, Daniel Cordier, interviewé par Jérôme Clément en 2013, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Humeur chafouine ce matin Guillaume, à cause du SARS-CoV-2, vous avez perdu des amis?
Oui, alors je vous rassure Julie, mes amis n'ont pas été tués par le virus, c'est juste que le coronavirus est devenu le sujet le plus conflictuel du moment. Comment je me suis disputé ma vie virale? J'en viens à me dire qu'il est essentiel de supprimer les fêtes de Noël pour éviter à tout prix les regroupements familiales. Les regroupements familiaux avec l'oncle qui pense que la petite bête à picot ne peut pas tuer la grosse, la cousine pour qui une infusion de gingembre suffit à tuer le SARS-CoV-2, sans oublier la tante pour qui Pasteur est à l'origine de la plus grande escroquerie de tous les temps. Vous allez me dire qu'il est possible de passer les fêtes en Suisse, je veux dire en respectant une stricte neutralité, mais non, quand vous êtes journaliste, vous êtes désormais le réceptacle de 1000 tribunes, expériences, épidémiologues qui avaient raison avant tout le monde et que vous refusez d'inviter côté parce qu'évidemment, vous prenez vos ordres de haut, de très haut même. Je vais vous faire une confession, je redoute le vaccin comme la peste. Pire, je redoute le vaccin comme le SARS-CoV-2 parce que je sais déjà que le débat deviendra encore plus compliqué. Chaque nuit, avant de m'endormir, je compte les millions que me verse sur mon compte en banque la fondation Bill Gates pour chaque antenne 5G installée au-dessus du domicile de Catherine Dutu près d'un centre de diffusion du coronavirus, parce qu'autant vous le dire, le coronavirus, c'est nous qui le diffusons. Avant, notre vie de journaliste était simple, Julie. Il fallait grosso modo éviter la corrida, c'était pas trop compliqué. Le conflit israélo-palestinien, pas de conflit israélo-palestinien jamais, surtout depuis la désarafatisation, parce que la désarafatisation, c'était déjà sacrément compliqué à prononcer, mais en plus, c'est un sujet qui n'attirait que des ennuis. Mais maintenant, il y a pire que la désarafatisation, l'hydroxychloroquine. Je me demande d'ailleurs si la posologie est la même. Je le demande tout en précisant que je ne sais pas, je ne crois pas, je n'ai jamais envisagé la possibilité qu'Arafat ait pu être empoisonné à l'hydroxychloroquine par le professeur Raoult. Finalement, c'est peut-être absurde d'imposer la distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus. D'après mes calculs, à la fin de l'épidémie, il n'y aura plus de malades et plus d'amis.